Je trouve que les mains parlent beaucoup plus, enfin, je sais pas, que les yeux. Je trouve que les yeux, des fois, ils nous mentent peut-être sur certaines choses. Et bien, nous, on ne touche plus. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément.
Comment vous faites justement depuis cette période Covid?
Ben, c'est un peu compliqué, il y a du manque, il y a du manque de ce contact, et surtout le contact humain, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, il y a des petits lâchers quand même, hein. Moi, j'ai besoin de tactile, j'ai besoin de serrer une main, j'ai besoin de faire une bise, je sais pas, c'est parce que quelque part, ça me parle sur la personne qui est en face de moi, ça me donne des informations sur son physique, sur. Ben avant, on n'avait pas d'hésitation partout. On pouvait tout toucher, que ce soit dans les cours, que ce soit les personnes qui sont autour de nous, la rencontre. Il y avait un serrage de main, une main sur l'épaule. Il y avait toujours un contact qui nous liait aussi bien avec ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Et là, c'est vrai qu'on est toujours un peu en retenue. On n'ose pas. On n'ose plus toucher les choses. Donc, soit on nous les décrit, soit il y a des situations qu'on arrête de vivre. Le toucher qui dit beaucoup, hein. On touche une main, on arrive à peu près à savoir presque la taille de la personne, et tout le reste, est-ce que c'est une personne venue, est-ce que c'est une personne. Donc tout ça, ça manque. On passe devant des choses sans savoir enfin, comment elles sont ou ce qu'elles peuvent représenter dans notre imaginaire. Tout n'est que. Là, on n'est plus déconnecté. Donc je pense que les personnes en situation de handicap visuel, d'un coup, on est un peu déconnecté des choses.
Alors, j'approche mes mains. Super. Les voici. Alors, ah oui, vous avez des longs cheveux. Alors, j'essaie de ne pas vous mettre les doigts dans les yeux, mais je suis un peu personne dans la voix au
N'hésitez pas,
début.
si vous voulez que je ferme les yeux et que vous faites le contour des yeux fermés, je peux le faire. Hein.
Je veux bien,
Allez,
s'il vous plaît.
vous pouvez y aller, attention, vas-y.
Merci. Comme ça, je vois ce creux particulièrement. Là, je vais prendre des mesures, notamment mentales, qui me permettent de voir un petit peu l'ensemble du visage. Un petit nez,
De ma grand-mère, mon famille. Je suis d'origine marocaine. Je suis née au Maroc, venue très très jeune en France. Mon papa était déjà ici, famille nombreuse déjà là-bas. On était 6 enfants. Et quand ils ont découvert mon handicap visuel, ils ont voulu que je sois suivie ici en France. Donc on m'a ramené moi et ma maman. Circuit un peu ordinaire, à batailler, à moi-même pas comprendre en fait. Pourquoi je lisais pas assez vite, pourquoi j'avais besoin d'une lampe sur mon bureau, en classe. Donc voilà, après je me suis retrouvée assez rapidement en internat, des moments où on a compris un peu le handicap visuel et la difficulté que j'avais à suivre en milieu ordinaire. Donc après je me suis mise à fréquenter les écoles spécialisées pour arriver à l'Institut National des Jeunes Aveugles et à découvrir le braille, ce qui m'a un peu libérée. D'un coup, la liberté d'avoir accès à la lecture, un peu plus à la connaissance, parce que tout ce que je faisais, c'était uniquement par la mémoire. Bon, c'était un peu compliqué aussi pour moi, accepter que voilà, j'avais besoin du braille, j'avais besoin d'une canne blanche. J'avais 15 ans, le moment pas très sympathique. Donc un rejet au début total, hein, rejet de la canne blanche, rejet du braille. Et puis au moment où j'ai lu mon premier livre, j'ai attendu, hein, j'avais 16 ans quand j'ai lu mon premier livre, j'avais jamais lu. Je me contentais des résumés, je bluffais un peu les instituteurs. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça m'a sanctionné moi, mais ça a fonctionné en tous les cas à l'instant T. Et après la découverte de ce premier livre, ben, d'un coup, j'ai eu le plaisir vraiment, et là j'avais besoin d'apprendre davantage, de me lancer dans le braille et de performer. De performer un peu plus pour une meilleure lecture rapide. Et là, le plaisir à apprendre. D'un coup, il y a eu du plaisir à apprendre, du plaisir à lire, du plaisir à découvrir. Et là, j'ai commencé à devenir un peu plus ambitieux. J'avais envie de passer un bac, l'avoir, faire des études de droit, devenir avocate, parce que j'avais l'impression que j'étais un peu plus outillée. Donc, je me suis retrouvée en fac de droit, après à travailler, oubliant un peu mes rêves, malheureusement. Et depuis quelques temps, on a un peu tout arrêté, un peu compliqué l'intégration dans les grosses entreprises. J'ai été chez AXA pendant une dizaine d'années. suis un peu quelqu'un de chiant, peut-être que j'en demande un peu trop. J'ai besoin d'avancer en même temps que tout le monde. Et quand on est handicapé, on nous demande d'accepter de prendre du retard par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu inacceptable pour moi. Donc, j'ai laissé tomber. Et je voulais m'orienter un peu vers quelque chose où le handicap, d'un coup, n'aurait plus été un problème, parce que j'avais quelque chose, autre chose à proposer, vers la kiné, le toucher. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai un peu voyagé. Et à un moment, j'ai décidé de prendre un chien guide. Et me voilà aujourd'hui à faire surtout du bénévolat pour l'école des chiens guides, à être ambassadrice pour lever des fonds pour le mouvement chien guide. Et là, cette année, je me réinscris en kiné malgré mon âge. Parce que j'ai l'impression pareil d'être arrivé à la limite, d'être un peu enfermé là, depuis quelques temps, de ne plus avancer du tout. Donc je vais essayer de réouvrir quelques petites portes et m'autoriser à avoir encore une autre liberté, celle de une liberté géographique. Pouvoir partir de France, pouvoir partir au Canada, pouvoir partir en Australie, j'ai envie de découvrir le monde. Mais malheureusement, j'ai rien à proposer. Donc on va essayer de s'octroyer un diplôme qui me permette d'aller un peu partout, découvrir le monde et en même temps travailler. Je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin du monde autour de moi. En même temps, j'ai une passion pour ma solitude que j'assume complètement. Mais j'ai besoin du contact. Alors là, d'un coup, soigner l'être humain, c'est encore mieux. Et puis, essayer de gommer un peu les obstacles qu'il y a entre mes yeux et ce que je veux obtenir de cette liberté. Et je pense que par le biais de la kiné, tout devient accessible. Aujourd'hui, un kiné non-voyant, il est accepté. Un juriste non-voyant a besoin de faire ses preuves. Quand on est dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Enfin, on est toujours censé faire nos preuves, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire ses preuves en tant que professionnel et en plus faire tomber la barrière que crée le handicap par rapport à tout ce qui est accessibilité, le matériel informatique, aller aussi vite que les autres et tout le reste. Et dans la kiné, je pense que on n'a pas à justifier, on n'a plus à se justifier qu'on est capable de. Parce que les yeux ne sont pas là, ce qu'on demande à la kiné, c'est d'avoir des mains qui parlent, des mains qui interprètent. Tu peux pas faire, c'est pas grave, ne fais pas. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment concevoir dans ma vie après. Si moi je sais que je peux faire, ça m'embête, mais de l'autre côté, on me dit, si tu peux pas faire, ne fais pas. Je m'en suis rendu compte, je pensais que j'étais capable de tout vaincre, mais à un moment, il y a une réalité qui nous rattrape. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment compris pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je travaille plus, mais je sais que si j'intègre, je pourrais, hein, honnêtement, je fais partie du profil qui est facilement employable dans les grosses entreprises. Ça va, je vais remplir, je vais répondre à un besoin de quota, les 6%, d'un coup, il y aura une satisfaction chez l'autre. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne tirerai pas beaucoup de satisfaction de ce type d'expérience. Je l'ai eu, je ne vais pas dire que toutes les expériences sont homogènes, mais on a encore un problème en France avec ce que peut être le handicap, ce que peut représenter le handicap encore aujourd'hui. Moi, je ne m'estime pas toujours handicapée. Quand je travaillais, je n'estimais pas toujours être handicapée. Si mon ordinateur fonctionnait bien, s'il n'y avait pas de soucis de bug, si j'étais pas handicapée. Parce que je connaissais mon travail, l'outil informatique était là pour compenser le handicap. Donc, quelque part, quand j'étais à mon poste, j'étais même plus une personne, pratiquement pas en situation de handicap. Et pourtant, pour l'environnement, le handicap était omniprésent. Je pense qu'il faut vraiment connaître une personne pour oublier, enfin, pour faire abstraction. C'est-à-dire, il y aura un moment où. Et même, c'est très compliqué. Je sens encore jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand je mange, même avec des personnes que j'aime beaucoup, on va sentir un regard qui est là, qui est un regard qui est en train d'observer, comment on fait pour couper, comment on fait quand on cherche. Aussi bien, des fois, c'est très, très bienveillant, hein, c'est parce qu'on a envie de nous éviter un peu certaines difficultés. Mais malgré tout, on nous regarde comme une personne handicapée, même si elle a bienveillance. On est dans un monde où on a besoin de nous mettre tous dans des cases. Ça serait plus facile de fabriquer comme ça des cases et d'intégrer chaque personne dans des cases et le monde du handicap, on a envie de nous mettre dans la case. Alors que c'est pas vrai, on a des parcours tellement différents. Aujourd'hui, vous prenez deux malvoyants, trois malvoyants avec la même pathologie. Notre parcours fera qu'on va être des personnes complètement différentes, même par rapport à l'appréciation du handicap, par rapport à nos vies au quotidien, comment on vit le handicap, comment on le partage, comment on le subit. On sera toujours hétérogène. Et cette hétérogénéité, des fois, on n'arrive pas la comprendre chez la personne en situation de handicap, parce que, ben voilà, on est handicapé, point. Au point où des fois les voyants s'excusent quand ils étaient disent « Est-ce que tu as vu ?» On leur dit « Mais non, vraiment, ne vous en excusez pas, parce que nous-mêmes, on voit toujours. Mmh. On est toujours en train de voir. Sauf qu'on ne voit pas toujours avec les yeux, on voit avec les oreilles, on voit avec les doigts, mais on voit au final. Mmh. »
Et sur le vocabulaire, justement, est-ce que Jean-Philippe avait l'air de dire que lui, il préférait le mot « aveugle » Est-ce que vous...
Non, on n'est pas d'accord. Moi, sur ce sujet-là, on n'est pas d'accord. Parce que je trouve qu'il y a une utilisation aujourd'hui de ce terme qui est toujours très, très mal utilisé. Quand on va dire de quelqu'un, je vois des journalistes étudier, l'utiliser, des sociologues, des profs l'utiliser pour dire que quelqu'un manque de clairvoyance ou manque d'intelligence, ça m'énerve hein, quand je vois ça. Hein.
Ah oui.
Il est aveugle. Ils sont aveugles, ils n'arrivent même pas à remarquer que... Mais non, mais arrêtez, je suis aveugle et pourtant moi, j'ai remarqué les choses. Donc malheureusement, on a tendance à tourner un peu ce terme pour quelque chose qui est beaucoup trop négatif. Le manque d'intelligence, le manque de clairvoyance, le manque de subtilité. Il est toujours utilisé à mauvais escient. Alors, moi, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire non-voyant. C'est tout de suite négatif, en fait, aveugle. Quand c'est utilisé par des voyants pour exprimer quelque chose... Et c'est gênant quand c'est des journalistes qu'on apprécie, très intelligents, pourtant, mince, pourquoi ? On peut être aveugle et clairvoyant, on peut être aveugle et subtil, on peut être aveugle et intelligent. Et pourtant, cette cécité, on va tout de suite l'assimiler à quelque chose de négatif. Le problème, c'est vraiment la vision, enfin le regard qu'on a sur l'handicapé. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le handicapé visuel, 19e, 20e, fin 19e, début 20e, le non-voyant, c'était le mendiant. Mmh. Voilà, on l'utilisait pour aller récupérer des sous pour l'église ou pour les structures associatives. Il était là, il n'était pas pour quémander. Et d'un coup, il fallait l'intégrer dans la société. La notion de citoyenneté, c'est ce que Chirac a ramené en plus. Vraiment cette notion de citoyenneté, à part entière. Mmh. Mais encore faudrait-il l'appliquer. C'est un peu plus compliqué parce qu'on a toujours un regard. Moi, j'étais dans l'ascenseur... En droit, il y avait un prof avec moi, quand il a vu ma canne blanche, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Oh ma pauvre !»« Oh ma pauvre !»
Oh,
voilà. Non, mais si on regardait un peu plus loin que notre nez, la pauvreté, elle n'est pas là. La pauvre, ma pauvre. Moi, c'est la vie à deux qui me fait le plus peur. Ce n'était pas le fait d'être maman, c'est vraiment accepter un autre adulte dans mon quotidien. Voilà, ça a été ça le plus compliqué. Mais toute une partie de la solitude que j'assume et que je sublime même. Hein. Vraiment,
oui,
je la sublime.
Voilà. Donc, j'ai besoin de solitude.
Exactement. Après, je reste toujours prête à tomber complètement amoureuse. C'est un sentiment que j'adore. Mais maintenant, ma liberté et ma solitude. Il y a des marquages qui sont figés en nous. On a des matrices comme ça, sociétales, qui se sont apposées à nous. Et,
c'est ça.
Et les gens n'arrivent pas toujours à prendre la distance avec cette matrice. Les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment que je veux y être seule et que c'est quelque chose que j'assume, c'est quelque chose qui est du domaine pratiquement de la compréhension pour beaucoup de personnes autour de moi. Pourquoi t'es seule? Ce serait tellement bien si t'avais... Et en plus, quand tu vois le quotidien, ils ne le voient pas pour... Oui, mais regarde, là, par exemple, t'étais malade si t'avais quelqu'un. Voilà. Justement. L'autre, ce serait plus pour des choses plutôt joyeuses que plutôt un soutien quand je suis malade. Je pense que c'est ça la confusion, et c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup d'échecs aujourd'hui. C'est que le deux n'est plus du tout envisagé comme un partage du bonheur, mais plutôt comme un soutien dans la galère. Non, c'est trop français. C'est ça, je crois.
C'est
pour ça que ça part pas mal. Je pense que si on n'est pas heureux, l'autre ne pourra jamais nous rendre heureux. C'est un... Enfin, je n'imagine pas. C'est une conception que j'ai beaucoup de mal à avoir. Voilà. Je ne suis pas heureuse et c'est l'autre qui va me rendre heureuse, je pense. Oups. Le manque peut-être que j'aurais dans la même vie, c'est ça, c'est la transmission. Peut-être que l'enfant, peut-être, ouais, ça peut être vraiment quelque chose de ne pas transmettre. En même temps, c'est très égoïste. C'est comme ça d'ailleurs que m'est arrivée l'idée de prendre un chien. C'est parce que je voulais un enfant. C'est quelqu'un qui m'a rappelé un peu, je revenais de vacances, c'était très marrant. Je revenais de vacances, j'avais fait des vacances un peu en solitaire. J'aime bien depuis quelques temps partir seule. moi et mon handicap et ma galère, et me retrouver un peu dans des situations délicates, et tout le reste, mais en étant seule, en allant à mon rythme, en essayant de résoudre les problèmes, les problématiques comme elles viennent. Et je revenais de Noirmoutier, j'avais fait du Blablacar, et je suis tombée sur une dame assez extraordinaire. Et c'est vrai, c'était vraiment les 40, c'était 40 ans. Et 40 ans, je crois que c'est toujours un peu compliqué. J'avais fait un superbe anniversaire, j'étais fière. Pour moi, c'était une renaissance. Mes 40 ans, j'avais pas du tout mal pris. Je me suis dit, mince, par contre, s'il doit y avoir mon enfant, là, vraiment, faut que j'y pense. C'est maintenant ou jamais, parce qu'après, le temps va passer quand même. Et j'avais fait toute une construction dans ma tête. J'avais trouvé une solution. Ça avait l'air d'être plutôt plausible et tout le reste. Et avec cette dame, on s'est mis à en parler. D'enfant par enfant, je lui ai expliqué un peu les choses et elle m'avait dit pourquoi vous ne prenez pas un chien guide. Je lui ai dit non, ça va pas, non, un chien guide, c'est trop d'obligations, c'est trop de contraintes, ça demande. Et tu vois, après, à ce moment-là, elle a eu une réaction un peu. Elle a tapé sur le boulot, elle m'a dit mais vous vous moquez de moi. Elle me dit vous voulez un enfant toute seule, vous voulez un enfant sans mec, sans rien du tout, et vous me dites qu'un chien c'est trop de contraintes. Elle m'a dit commencez par prendre un chien, et après on en rediscutera. Et peut-être que grâce au chien, en fait, après je me suis rendu compte que peut-être être maman, malvoyante, seule, je me suis dit ah, peut-être qu'effectivement ça peut ne pas être aussi simple que ça. Je suis un peu gaga avec ce chien. Et pourtant, je vous assure que je n'aimais pas les chiens. Avant lui, je n'aimais pas les chiens. Je ne l'ai pas choisi, mais on va dire qu'il a tellement. Il répond complètement à mes rêves, en fait. Quand j'imaginais mon chien, c'est lui que j'imaginais. Je crois que j'ai dû même le croiser une fois et j'avais dit à la directrice que c'était lui le chien de mes rêves. Et elle m'avait dit qu'il n'y avait aucune chance de l'avoir parce qu'il était déjà. Il était déjà prévu pour un autre non-voyant. Et puis au final, trois mois après, on m'a appelé pour lui. Donc voilà. Donc en général, les délais, c'est quand même 2 ans d'attente, 2 à 3 ans pour avoir un chien guide. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Au bout d'un an, je l'ai eu. Parce qu'il était là, il était éduqué. Et tous les non-voyants qui ont essayé de travailler avec lui, le binôme n'a pas fonctionné pour X ou Y raison.
D'accord.
Et on me l'a fait tester, avec moi, ça a fonctionné.
Et comment il s'appelle ?
Hiro. La lumière en japonais.
Ça fait combien de temps que vous l'avez ?
5 ans.
Ah oui ?
Ouais. Premier chien. C'est mon petit doudou. Le problème, c'est on a pris malheureusement du retard sur tout ce qui concerne un peu le handicap. Donc, on a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de non-voyants qui sont assez réticents à prendre un chien guide parce que il y a toujours ces refus un peu d'accès, aussi bien dans les restaurants, dans les transports, dans les grandes surfaces. Les personnes ne sont pas toujours un peu en phase avec la législation. Notre chien a absolument le droit de rentrer partout. Le principe, c'est que tous les établissements recevant du public doivent obligatoirement recevoir le chien. Ça, c'est la loi. Soit elle est méconnue, soit il y a de l'appréhension à l'égard de l'animal. Et cette appréhension va être démontrée par un refus, alors que, pareil, c'est pas, ils ont bien conscience de la loi, mais parce qu'ils n'aiment pas les chiens. On vient, non, je ne comprends pas. Je suis toujours épatée quand je suis dans un magasin et qu'il y a un enfant qui dit à sa maman regarde maman, t'as vu, ce chien-là, il a le droit de rentrer, alors que normalement, c'est interdit pour les autres. Et là, je me dis, extraordinaire, la communication est passée. La communication est passée. Mm-hmm. Parce qu'on fait beaucoup d'interventions dans les écoles, donc, pour essayer un peu de sensibiliser le maximum de personnes. L'exemple de Paris, c'est la structure associative que je connais mieux. Il y a à peu près 120 demandes, 130 demandes pour une quarantaine de chiens. Quand on va en province, c'est pour ça que des fois il y a des non-voyants qui vont faire leur demande en province, parce que d'un coup il n'y a pas d'attente. Normal, Paris, où il y a une concentration, déjà il y a l'Institut National des Jeunes Aveugles, donc ça fournit pas mal de non-voyants. Juste à côté, il y a la VH, il y a une autre structure dans le 14e arrondissement, il y en a 2 même dans le 14e arrondissement. Donc il y a quand même beaucoup, ce qui est tout à fait normal, hein. Quand on a un handicap, on va toujours vers les grandes villes parce que c'est là où il y a les établissements spécialisés, c'est là où le monde nous est aussi un peu accessible, aussi bien pour nos études que dans les transports en commun. Donc c'est vrai qu'on a tendance à aller vers les grandes villes. C'est rare. C'est d'abord une fois qu'on a l'expérience, on va dire, de la grande ville, donc qu'on est complètement autonome, qu'on peut aller s'isoler en province ou dans les petits bleds. Donc sinon, dans un premier temps, c'est vrai que l'autonomie, on va la construire vraiment dans les grandes villes. La grande ville aujourd'hui, je la vois vraiment comme simplement comme l'autoroute de l'accès un peu à beaucoup de choses, c'est tout stop. J'ai pas spécialement plaisir en fait. J'ai pas plaisir à y vivre. Mais par contre, la vie m'est plus facile. C'est très paradoxal. J'ai pas le plaisir, mais l'accès devient plus facile. Donc ça compense. Simplement pour aller des fois en province chez des amis, je vois bien que je manque d'autonomie, même avec mon chien. Là, rien n'est simple. Des fois, vous demandez simplement un trottoir, il n'y est pas. Le chien, le repère du trottoir. Et là, il faut marcher sur la route, servir complètement à gauche ou à droite. Il n'y a pas toujours les piétons. Pareil, avec mon chien, c'est nos repères, c'est les piétons pour aller traverser. Donc, tous ces repères qu'on a à Paris, ils n'existent plus. Ils disparaissent. Donc, c'est une autre façon de circuler en province. Et je ne suis pas encore assez téméraire pour le faire. Et sinon, moi, je me vois bien. Mon rêve, ce serait avoir une petite maison en bois quelque part, en Corrèze ou dans la Creuse, qu'on mette simplement une petite rivière, un peu d'eau, pas très loin, et qu'on me laisse écouter la nature. Après, pareil, hein, c'est simplement un peu des fantasmes. La réalité fait que ça serait très, 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 très compliqué. Ouais. Ça serait très compliqué. C'est là où, d'un coup, je pourrais avoir besoin de l'autre. Donc, pareil, ça serait par intérêt, je pourrais mettre avec quelqu'un avec pour partir en province. Moi, je suis un peu une angoissée du noir. Je suis beaucoup de cauchemars. Le noir, c'est pas quelque chose que je supporte. Du traumatisme d'enfance, d'après ce que j'ai compris. Les parents, ils sont un tout petit peu responsables que ça repartait d'un bon sentiment, mais ils voulaient me guérir de mon handicap visuel. Ouais, ils m'emmenaient dans des endroits où ils pensaient qu'il allait y avoir une intervention divine, ou je ne sais pas de qui, pour faire disparaître le mal. Donc j'avais posé beaucoup de questions à ma maman. Pour essayer un peu de me débarrasser de ça, mais je crois que le cerveau, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai un peu plus compris les choses. Je crois qu'il les a un peu mieux interprétées. Là, ça va quand même beaucoup mieux en cauchemar, mais j'aime toujours pas le noir. Le noir et le vide, j'aime pas ça.
Mais donc, chez vous, mettez de la lumière pour dormir ?
Non. Parce que j'ai un petit appartement et je ressens toutes les masses qu'il y a autour de moi. D'un coup, je me sens en sécurité. J'en ai fait un peu, mis un peu en baldaquin. Je ressens les rideaux, je ressens le mur, donc je me sens protégée. C'est pas un noir profond, c'est un noir qui est limité, et je gère j'ai conscience de ces limites. Quand je le fais, c'est quelque part, c'est ça, j'ai envie de conjurer un peu j'ai envie de conjurer le sort. Je veux essayer de me dire que si je le fais, ça va faire disparaître quelque chose. Et je crois que pendant certains voyages, j'ai réussi un peu à me battre contre ces démons, inconscient. J'ai eu cette pensée il y a très très longtemps, en disant il était hors de question que j'impose par la transmission génétique cette pathologie à l'enfant. J'ai grandi avec cette idée-là en fait. C'est pour ça que beaucoup plus jeune, je me suis même pas posé la question est-ce que je voulais un enfant ou pas. Pour moi c'était clair, je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas transmettre, parce que je voyais vraiment, c'est pas un handicap que j'ai beaucoup aimé pendant mon enfance et pendant mon adolescence et par la suite. Je l'aimais pas. J'ai appris à l'apprivoiser et surtout que, en plus de l'apprivoiser, c'est que je me suis rendu compte que, quelque part, si c'est bien pris en charge très tôt avec un enfant, il y a des choses à faire. Il y a vraiment quelque chose que, c'est pas le pire du handicap, honnêtement. L'handicap visuel, pour moi, il nous permet quand même une sociabilisation, il nous permet le contact à l'autre, et ce qui est très important aujourd'hui, en tout cas moi, je vous ai parlé un peu de ces relations sociales et du contact, et j'en avais besoin. Mmh. Le handicap visuel ne vous isole pas. Vous n'êtes pas dans un monde de non-voyants. Maintenant, des fois, malheureusement, à cause des parents, parce que je ne sais pas pour X ou Y raison, soit ils veulent protéger leur enfant, ils vont avoir tendance à un peu trop l'isoler du monde et à se charger de sa totale instruction. Moi, j'ai eu de la chance dans mon enfance, c'est que ma famille m'a permis d'être tout le temps dehors, en fait. Mmh. Ils m'ont pas davantage choyé, ils m'ont pas davantage isolé sous prétexte que j'étais malvoyante. Ils m'ont pas donné cette protection qu'on aurait presque envie de donner à quelqu'un à qui il manque un sens. Voilà. Ils m'ont pas donné cette protection-là. En gros, c'était débrouille-toi, famille nombreuse, fais ta vie comme tout le monde. Moi, je trouve que c'est une chance. Ça m'a préparé davantage à la vie. Mais malgré tout, c'est vrai que voilà, jusqu'à 30 ans, j'avais pas envie. Vraiment, je n'aimais pas mon handicap, j'aimais pas, je ne l'assumais pas avec les garçons, je ne l'assumais pas. Je trouvais qu'il y avait un truc en moins chez moi, un truc qui était. Voilà, il y avait un truc vraiment en moins. Et après, par la suite, plus on avance, heureusement, on prend de la maturité, et on comprend les choses et on se rend compte que. On garantit rien en fait à l'enfant, quelque part, on ne sait pas. À défaut d'un handicap visuel, on peut lui transmettre autre chose. Ou rien. Enfin, j'ai un petit neveu qui a la mucoviscidose, voilà, il y a des choses comme ça qui sont complètement hasardeuses, qui peuvent arriver. Et j'ai trouvé que naître avec un handicap visuel, ce n'était pas le pire si on permettait au gamin, très tôt, de l'orienter vers une vraie autonomie. L'apprentissage de tous les outillages qui puissent exister lui permet d'être autonome. Je pense qu'on peut bien s'en sortir aujourd'hui. On n'est pas totalement libre, parce que je pense que le handicap nous prive d'une liberté totale. Répondre à des injonctions comme ça qui pourraient m'arriver et de ne pas me sentir bloquée parce que je vois mal. J'aurais adoré prendre un sac à dos et aller me balader quelque part au Pérou. Je sais que je ne pourrais jamais le faire. C'est pas possible. Il faudra que j'attende la disponibilité de quelqu'un. Je peux pas me dire là, la semaine prochaine, je suis super héros. Un matin, je me lève et je me dis, bon, allez, je vais partir dans telle forêt et je vais aller passer une journée. Je sais que je peux pas parce que je vois tout de suite tous les obstacles qui vont être devant moi. J'aurais trop envie de voir le monde entier. J'ai le temps. J'ai le temps de le faire. Je crois que mes parents m'ont expliqué que j'étais comme une petite casse-pied quand j'étais enfant. J'étais un peu trop, j'étais toujours dans la pertinence à essayer de comprendre, à essayer de défendre, à essayer. Et je pense que l'handicap y est beaucoup, pour beaucoup. À l'adolescent, je crois que j'ai dû commencer à prendre en charge, un peu à comprendre, un peu une espèce de d'abandon. J'ai l'impression d'avoir été un peu abandonnée dans le système éducatif français, un peu mise en échec, un peu. Injustement, enfin, on était capable de me réprimander quand j'écrivais lentement, quand je lisais lentement, et c'était des choses vraiment que je comprenais pas, je trouvais ça tellement injuste, mais moi aussi je comprenais pas pourquoi je lisais lentement, je pensais simplement parce que j'étais mauvaise, et c'est bien plus tard, c'est à l'adolescence que j'ai compris que non, c'est pas parce que j'étais mauvaise, c'est parce que je voyais mal, vraiment très très mal, et le fait que ça soit pas, ça n'a pas été compris, mais par contre on a toujours réussi à me faire comprendre quand je faisais mal des choses, je crois que c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. C'est pour ça d'ailleurs je suis un peu une rebelle, je suis un peu dans la contestation, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, parce que l'autorité elle m'a plus mis la tête sous l'eau que essayer un peu de me sauver, en tout cas quand j'en avais vraiment besoin, c'est-à-dire l'enfance et l'adolescence. Mes parents viennent d'un milieu, enfin, pas aucune instruction, rien du tout. Je crois qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup eu de mal à comprendre vraiment ce que je voyais, ce que je voyais pas. J'ai ce type de pathologie où c'est compliqué. Comme je vous ai dit, mes yeux vont bien. Visuellement, j'ai pas de problème. Quand on me regarde, j'ai pas de problème visuel. Enfin, surtout quand j'étais plus jeune. Maintenant, je crois que j'ai un regard un peu plus fuyant parce que j'ai plus de difficultés à me concentrer, à voir les choses. Donc, mes yeux les cherchent et on voit que mes yeux sont en train de chercher quelque chose. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une meilleure acuité visuelle. Mais il y avait des situations où je ne voyais vraiment. Enfin, j'avais besoin d'aide dans les couloirs, il fait sombre. J'ai un handicap qui a vraiment beaucoup besoin de lumière. Et pourtant, il fallait que j'évolue. Le matin, il fait l'hiver, il fait nuit, très tard. Et pourtant, j'étais en cours, comme tout le monde, à 9h. Mais c'était pas possible que je voie quoi que ce soit. C'est la pathologie. J'ai pas de vision nocturne. Et je me demande, mais comment je faisais quand même, malgré tout? Fallait que j'écrive, fallait que je lise. Alors que je n'y voyais absolument rien du tout. Fallait que j'aille à l'école aussi, alors que je n'y voyais absolument rien. Et mes parents aussi, je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que je voyais, ce que je voyais pas. Ils ont compris à un moment que je voyais mal la nuit, mais ils ont, j'imagine qu'ils ont eu du mal vraiment à appréhender les besoins que créait le handicap en fait. Et ceux qui me voyaient le plus dans ce type de situation-là, parce qu'une fois de plus, quand on est à la maison, on est autonome. Quand on prend conscience de l'environnement, quand on est habitué à l'environnement, comme je dis, pratiquement le handicap finit par disparaître, parce qu'on atteint une autonomie. Donc mes parents me voyaient évoluer sans problème à la maison.
Mais quand on arrive à l'école et qu'il faut lire dans un livre et que c'est écrit super petit et qu'il fait tout sombre et qu'il faut en même temps écrire et que les instits, au bout d'un moment, ils comprennent, parce qu'à un moment, ils ont saisi qu'il fallait mettre une lampe, moi, par exemple, à ma table. Mais par contre, au moment de recopier quelque chose sur le tableau, alors soit l'instituteur était de bonne humeur et il recopiait pour moi, soit c'était le jour où il voulait pas, il me laissait me débrouiller. Moi, je sortais pas en récréation parce que j'étais trop lente, j'étais toujours en train de recopier ce qu'il y avait écrit au tableau, mot par mot. J'étais absolument pas lente, mais, et pourtant, je crois que j'étais vraiment plutôt docile entre l'âge de 6 ans et 11 ans. Je crois que c'est vraiment à l'adolescence, la prise de conscience est là où la révolte a commencé contre l'autorité. Parce que cette autorité, j'ai trouvé qu'elle m'a pas aidée. L'autorité, en tout cas légitime de l'époque, ne m'avait pas aidée pendant mon parcours. Heureusement, à un moment, il y a des profs, ça c'était au collège, où ils ont pris conscience que c'était vraiment compliqué, parce qu'en plus, au collège, on commence encore plus tôt, 8h du matin. Il y a un mois, 8h, entre 8h et 9h, il fait complètement nuit. Et là, il fallait quand même être en classe, une fois de plus, il fallait quand même écrire, et là, les profs, ils se sont rendus compte. C'était en cours de sport. J'étais en cours de sport, en train de jouer au volley. Et un prof est venu me voir en me disant, mais depuis tout à l'heure, il y a des balles qui passent à côté de vous et vous les récupérez pas. Je crois que je les vois pas, en fait, ces balles. Mais comment ça se fait? Ça veut dire quoi? Vous les voyez pas? Je dis, je crois que je vois mal. Il dit, comment? Mais dans votre dossier, mais on ne dit pas que vous voyez mal. Je dis, si, tout le monde le sait, je vois mal. J'avais des lampes entre le CP et le CM2. J'ai dit, oui, je vois mal. Et là, convocation de toute l'équipe et orientation vers une école spécialisée. Mais ça, je n'avais pas conscience, hein. C'est des choses qui commencent à se reconstruire là, dans mon cerveau petit à petit, en fait. Je n'avais pas spécialement conscience. J'ai posé des questions, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le décès de mon papa dans la ville où j'ai grandi, et j'ai repris contact avec tous les amis de mon enfance. Et je leur ai dit, mais comment je faisais pour aller au collège? Ils me disaient, je sais pas, on était là avec toi. Et, oui, mais comment je fais? Aujourd'hui, j'arrive pas à savoir, oui, comment je faisais à 7h30 pour aller au collège. Je n'imagine pas.
Il vous prenait pas par le bras?
Si, sûrement qu'il y avait un bras, mais j'arrive plus à visualiser les choses, en fait. Je les visualise pas. Je sais pas si j'étais angoissée ou pas. Oui, alors j'étais angoissée quand on passait d'une classe à l'autre. Ça, je m'en rappelle. Fallait gros collège, 4 étages. Fallait passer de la salle 28 à la salle numéro 4. Là, par contre, quand j'étais seule, j'angoissais vraiment pour trouver la salle. C'est là où je suis restée que 3 mois. J'étais quelqu'un qui sortait aussi le soir, qui faisait un peu aussi des conneries le soir. On n'était pas toujours des gens très très raisonnables. Quand on est jeune et adolescent, on aime bien faire monter l'adrénaline. On aime bien se faire courir après tout le reste. Et pareil, je courais dans le noir. Et ben, une des cicatrices que vous avez vues, c'est ça. Celle du front, c'est exactement celle-ci. C'est un entrée d'escalier. Vous ne pouvez pas rentrer à 4. Il fallait bien que... Voilà, c'est moi qui me suis pris le rebord. Mais accepter, c'était pas un souci, parce que c'était suite à du bonheur. C'était la vie. C'était tout simplement la vie. Non, mais c'est aussi peut-être un peu grâce à ça que je suis autonome aujourd'hui. J'ai pas peur d'être seule, ou je peux partir en vacances complètement seule. Il y a 2 ans, je me suis louée avec Hiro, je me suis louée une cabane perchée dans les Pyrénées. Je me suis retirée complètement de la civilisation, il n'y avait personne autour de moi. J'avais ma petite cabane, un lac, les vaches et les chevaux autour de moi. Je l'avais déjà fait ce séjour il y a 5 ans, au même endroit, sauf qu'il y a 5 ans, c'était avec une canne blanche. Pas beaucoup d'autonomie, malheureusement, un peu compliqué de sortir de ma cabane, parce que c'était vraiment un chemin forestier, tout était inaccessible, il n'y avait aucune logique de déplacement, ce qui était très compliqué. Je suis tombée sur un formidable... un guide montagne avec qui j'avais randonné et qui était venu, qui m'avait fait une main courante qui partait de ma cabane et qui descendait la colline et ensuite qui traversait un pont et tout le reste et redescendre près du lac. Il m'avait fait comme ça une main courante pour que j'ai un peu plus d'autonomie avec ma canne blanche.
Super idée.
Ça vraiment avait été génial. Et puis quand j'ai eu Hiro, je me dis, allez, j'aimerais bien partir, faire un peu le même délire, mais cette fois-ci avec Hiro, donc plus de possibilités aussi avec lui. Donc là, dès qu'on est arrivé, on m'a déposé là-bas en voiture. À Hiro, je lui ai montré exactement l'endroit où il fallait commencer à grimper la montagne, parce que ça allait être notre maison. Et on a fait un aller-retour, et puis juste après, tranquille, Hiro, il allait tout seul, hein, on grimpait, on passait le petit ruisseau, des petites planches en bois, et après on montait jusqu'à la cabane. Donc les repères, c'était ça. Et après, je savais que c'était un lac et qu'on ferait le tour du lac. Il y avait un petit chemin de rando. On suivait le petit chemin. Je me lançais pas spécialement dans des délires un peu chemin forestier, loin de tout. Je suis restée quand même dans des chemins très accessibles. Depuis que je l'ai, j'ai plus de blessures à l'extérieur.
Ouais.
Vraiment plus rien. Les obstacles n'existent pas. Ils rendent les déplacements tellement plus fluides, tellement plus agréables. C'est un peu le prolongement de mes yeux.